Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est... Oula. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Cette semaine, l'équipe est au complet. Bonjour Gaël.
Salut.
Oh, je t'ai chopé en plein bâillement.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais il est 8h.
Quel début d'heure du mat. C'est faux, c'est pas du tout une matinale. Bonjour Lisa.
Salut Alexis.
Et bonjour Robin.
Salut Alexis.
Est-ce que vous êtes prêts pour parler du riche programme de cette semaine, puisque nous avons au programme Bernadette, la nouvelle comédie portée par Catherine Deneuve, et Le règne animal, un grand film fantastique français porté cette fois-ci pas par Catherine Deneuve, mais par
Romain Duris.
Et par
Paul Kircher.
Et par
Adèle Exarchopoulos.
Et formidable, heureusement qu'il n'y avait pas une quatrième personne en plus, car je n'aurais pas pu citer moi-même une quatrième personne de ce casting, mais de ce très riche film. Bref, ce sont donc les deux films dont nous allons parler aujourd'hui. C'est d'ailleurs nos deux labels, puisque Bernadette est notre label Coup de cœur et Le règne animal, notre label L'autre regard.
Mais attends, excuse-moi Alexis.
Oh là là.
Non mais ça y est, t'as dit quelque chose, je voulais quand même un. Bon, on aurait pu dire porté aussi par la musique de Pierre Bachelet.
Mais écoute, voilà. Mais on aurait pu, tu vois.
C'est vrai.
On aurait pu dire plein de choses, mais finalement, tu sais qu'on n'a pas fini d'en parler de l'animal.
J'espère bien.
Communément un sommaire pour donner un peu la couleur et l'envie aux gens de rester, bien sûr, pour en savoir plus sur ces deux films à découvrir cette semaine sur grand écran. Mais on commence par un raz-de-marée qui s'apprête à tomber sur le cinéma français, sur les salles de cinéma, sur l'Europe, sur le monde. Robin, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui va se passer à partir du vendredi 13 octobre dans les cinémas pâtés en France?
Taylor Swift,
exactement,
qui arrive sur grand écran en France et donc à travers le monde. Le concert, donc, on a vu sans doute passer la tournée The Eras Tour, qui fait guichet fermé et salle pleine depuis plusieurs mois.
Pour ton grand malheur. Hein.
Bien sûr, évidemment.
Tu étais sur liste d'attente?
Oui. Tout à fait.
Navré.
Voilà, tant pis. Taylor Swift va donc continuer sa tournée en Europe l'année prochaine et en même temps, son film, donc, film concert de la tournée, qui va sortir sur grand écran à partir du 13 octobre, comme tu le disais.
Tout à fait. Donc, Taylor Swift, The Eras Tour, sera à découvrir donc, le film du concert événement, exclusivement au cinéma, 168 minutes de Taylor Swift. Est-ce que c'est assez pour toi?
Robin. Oui, ça
bien. Vous avez le droit de participer, Lisa Gaëlle, mais parce que je parle à Robin qui est un petit peu notre Swiftie, quoi, autour de la table. Donc, alors, je ne vais pas m'en cacher, j'écoute aussi.
Alexis, tant qu'on n'a pas le devoir de participer, tout va bien.
Ah, je vois ça. Toi, tu es resté sur Pierre Bachelet tout à l'heure, donc chacun vivement sa crèmerie.
Deux ambiances.
Tout à fait. Donc, c'est un concert qui sera à découvrir donc, en exclusivité au cinéma à partir du vendredi 13 octobre. Petite précision sur les tarifs, parce que c'est une sacrée comique. Et le tarif adulte est à 19,89€, en référence à quoi donc?
Ah, 1989.
Oh, Lisa, c'était un jeu, bravo. Tout à fait. Et les places pour les plus jeunes sont à 13,13€, en référence à...
Rien du tout.
1313, la bataille de...
Ouais, oulala. Il est déjà dans la sortie de Napoléon, mais ça arrivera bien plus tard. Bref, c'est aussi un film à découvrir d'ailleurs en Dolby Cinéma et en IMAX, dans les cinémas pâtés. Bref, c'est à partir du 13 octobre. Un rendez-vous, bien sûr, dans lequel vous retrouverez Robin dans peut-être plusieurs salles à travers la France. En tout cas, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Bref, avant de parler de nos deux films de la semaine, il y a un grand sujet qui fait l'actualité, c'est la fin de la grève des scénaristes aux États-Unis. Après 148 jours, la grève s'est terminée la semaine dernière. Un accord a été trouvé entre la guilde des scénaristes américains et les studios, justement, avec qui ils étaient un petit peu en conflit, on peut le dire. Presque 150 jours de grève. On en est où, d'ailleurs, de cette situation à Hollywood?
Alors, c'est toujours... je continue, du coup?
Bah oui, bien sûr, parce que visiblement, c'est un face-à-face.
J'ai regardé, je me suis dit, allez, je vais...
Nous, regarde, il y a une interaction, il y a une dynamique. Là,
non, mais je vais faire mon petit point.
Il y a un public qui est en train de se créer, finalement.
Non, mais aidez-moi, c'est pas simple, la grève.
Oui, aidez-moi.
Aidez-moi.
Au secours.
Non, donc, la grève, sujet complexe, effectivement. Les scénaristes, apparemment, donc, ont trouvé, la semaine dernière, un accord de principe qui a été accepté par les studios. Dans cet accord, on a trois points importants qui concerne le travail des scénaristes. Le premier point, c'est la régulation de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, les studios ne pourront pas utiliser une intelligence artificielle pour modifier ou écrire les textes à la base écrits par les scénaristes. Le deuxième point important, ça concerne les chiffres d'audience du streaming. On sait que c'était un des sujets majeurs de la grève. Les studios ne communiquent pas sur les chiffres d'audience des plateformes.
Ou pas énormément.
Pas assez. Et la conséquence de ça, c'est par rapport aux revenus résiduels. C'est-à-dire les revenus un peu, comme on pourrait dire ça, de droits d'auteur, même si c'est un peu plus complexe que ça, que les scénaristes, acteurs ou réalisateurs
touchent.
Que
toutes les personnes touchent, travaillant sur une série ou un film ne touchent pas, finalement.
Et donc, comme les chiffres n'étaient peu ou pas connus, c'était impossible de calculer le montant de ces revenus. Donc là, pareil, les studios ont trouvé un accord pour dévoiler une partie des chiffres aux représentants de l'Union des scénaristes.
La guilde, tout
voilà,
fait, des scénaristes
qui pourront après donc faire passer des informations aux concernés. Et le troisième point, ça concerne le nombre minimal de scénaristes dans ce qu'on appelle les writers' rooms, donc les pièces de création de séries notamment.
Qu'on pourrait traduire ça comment, Gaël? Writer's room,
bon, c'est les salles d'écriture, mais en fait, c'est les...
Tout simplement. Ouais, non, ouais. J'avais besoin d'une traduction française.
Pardon,
t'inquiète pas.
Et donc, dans ces salles d'écriture, c'est aussi pour lutter contre l'utilisation des intelligences artificielles, où les scénaristes voulaient un minimum, en fonction, là aussi, le sujet est compliqué, de la série, du nombre d'épisodes, de la durée de diffusion, mais ça peut aller entre 6 auteurs minimum jusqu'à 12. Voilà, c'est un petit peu les contours de cet accord, même si le sujet est à creuser, évidemment, pour plus le comprendre.
Mais le problème, c'est surtout qu'on n'a pas le deal. On n'a pas accès aujourd'hui, enfin, au moment où on parle, on n'a pas encore les termes de l'accord qu'il y a eu entre, effectivement, les scénaristes, enfin, les représentants des scénaristes et les représentants des studios. Ce qui laisse quand même entrevoir que la crise est en partie résolue, mais pas totalement, parce que les acteurs, eux, n'ont pas levé leur mot d'ordre de grève. Et ça reste un des points noirs sur la situation aujourd'hui, parce que certes, les scénaristes vont pouvoir se remettre au travail, mais
les tournages
des acteurs,
les tournages vont pas forcément reprendre.
Voilà.
Pour les acteurs, je crois qu'on parle de nouvelles discussions justement entre les deux syndicats, enfin entre le syndicat des acteurs et les studios d'ici quelques jours, quelques semaines.
Ouais.
Donc à voir l'évolution que ça va prendre finalement dans les jours et les semaines à venir. L'intelligence artificielle, bien sûr, c'était au cœur de The Creator, toujours au cinéma, donc n'hésitez pas à y aller. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est vraiment quand même pas mal comme film. Bref,
juste pour ça.
Mais qui n'a aucun rapport finalement avec la grève. Enfin, si ce n'est ce sujet central. Donc au final, il y a un léger rapport. Bref, cette semaine, 2 films font l'actualité. On commence dès maintenant en vous parlant donc du Règne Animal, le nouveau film de Thomas Caguet avec Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos.
C'est une mutation. C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on ne comprend pas tout.
C'est ta mère, Emile.
Le Règne Animal, c'est une grande proposition de film fantastique français, qui plus est. Qu'est-ce qui impressionne le plus dans cette nouvelle expérimentation comme ça du cinéma français sur grand écran?
Moi, ce qui m'a impressionné tout de suite, c'est la première scène, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que...
Elle met directement dans le bain, dans
l'atmosphère de ce film absolument hors norme, je trouve, qui réussit ce que le cinéma français ne sait pas toujours ou pas complètement faire, à mon avis, dans le registre du fantastique, mais pas seulement. C'est un film qui est très difficile à définir.
Beaucoup de sous-catégories, presque.
Moi, je pense que c'est la richesse principale du film, elle est là. Elle est dans sa manière d'aborder des territoires de cinéma radicalement différents et d'arriver à en faire une proposition complètement unique et homogène et harmonieuse, en fait. Et je trouve que c'est ça la réussite du cahier.
Pour mettre un peu de contexte, ça se passe donc dans un espèce de monde pas si lointain, enfin même c'est un monde contemporain,
c'est notre monde,
voilà, comme tu le dis, c'est super, j'aurais pu commencer par là, merci Gaël, dans lequel on commence à constater des espèces de mutations animales auprès de la population.
Elle est même pas constatée, elle est déjà installée,
voilà.
En fait, c'est vraiment
si
ça
tout
qui...
Tout le monde a envie de me contredire, débranche le micro et je le pose.
Non mais puisque Gaël, il parlait de la scène d'ouverture, c'est vraiment, je pense, capital dans ce que va représenter ensuite le film et qu'est-ce qu'il va aborder finalement, c'est pas juste une une découverte scientifique qui fait que l'être humain se transforme et est victime de ces mutations.
C'est pas le patient zéro, on arrive
dans un monde dans lequel ça existe déjà.
Ça aurait été un tout autre film, mais voilà, si justement il avait débuté au début de cette épidémie,
un
mutation.
Un peu à la War War Z, tu sais, avec la scène voilà, d'intro.
Ou Acide, dans les... plus récemment. Ou Acide, c'est-à-dire que d'un seul coup, on annonce des pluies et elles arrivent. Là, on est dans ce monde, on est avec eux. Ce qui montre que le sujet n'est pas justement qu'est-ce qui s'est passé, comment on va s'en sortir, c'est comment on vit avec ça. Et c'est, à mon avis, c'est le truc qui est extraordinaire et qui me rappelle en fait un chef-d'œuvre, alors pour le coup de littérature, qui est La Route, où La Route, on commence le livre, mais aussi le film, on commence le récit avec ce père et ce gamin qui promènent un chariot. Et la question de savoir ce qui s'est passé, qui sont les méchants, etc., elle n'est pas là, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le rapport entre ces deux personnages, là, en l'occurrence, un père et un fils aussi, c'est-à-dire Romain Duris et Paul Kircher, qui sont dans la voiture, dans la scène d'ouverture, et le rapport entre ces deux personnages dans un monde qui est en train d'exploser.
Et puis, je pense qu'il y a plusieurs strates, comme tu disais tout à l'heure, on pourrait le définir comme un cinéma de genre, mais c'est un cinéma des genres, c'est-à-dire qu'il y a une densité, une richesse entre de l'humour, du drame, de l'intime, du sociétal aussi. Et je reviens sur ce que tu disais sur le rapport en fait, entre un père et son fils. Je trouve aussi que c'est un rapport à l'autre aussi, plus globalement sur qu'est-ce que c'est la mutation. Ça peut être à la fois cette métaphore du récit d'initiation d'un jeune qui va se transformer, du coup, ce côté de le passage de l'adolescence à l'âge adulte, et en même temps ce rapport à l'autre, cette différence et les questions sociales que ça pose en fait aujourd'hui, et à quel point on fait un rapport avec notre monde aussi, tu vois.
Alexis, j'ai besoin d'un jingle.
Voilà.
Alors, c'est la minute philosophie.
Très bien. Alors, je n'en ai
non,
pas.
Non, partez pas.
On peut en insérer un virtuellement et puis en effet ensuite travailler
dessus. Non, mais Lisa a tout dit et moi le film m'a bouleversé sur un plan. Presque, alors d'abord émotionnel, c'est un film très très émouvant, très touchant,
ouais.
Dans ce qui travaille de la relation entre le père et le fils, mais c'est aussi un film d'une profondeur intellectuelle qui est redoutable, et je pense qu'il faut mentionner à ce moment les ouvrages d'un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, qui est un philosophe qui publie des essais sur notre rapport au monde animal, et qui explique comment les enjeux de la catastrophe écologique qu'on est en train de connaître nous poussent à approfondir notre relation avec les animaux et à voir comment ces animaux peuvent nous éduquer à vivre un peu mieux, un peu plus en harmonie avec la nature. Et tout ce que dit Baptiste Morisot, qui est un élève aussi du grand philosophe Bruno Latour, tous ses essais, toutes ses pensées sont dans ce film. Et je trouve qu'il y a une réflexion, encore une fois, d'une richesse et d'une beauté sur notre rapport, non seulement à la catastrophe qui est là dans le film, mais qui est là aussi dans le quotidien qu'on vit nous tous les jours, mais dans ce rapport à la catastrophe, mais aussi au monde animal et au monde végétal, qui réellement m'a vraiment bouleversé, quoi. Il y a une beauté de tout cela qui est, je sais pas, vous avez peut-être pensé à d'autres films, mais moi, qui me semble absolument unique dans le cinéma français, quoi.
Non, mais c'est ça que c'est. D'une part, il y a un message qui est extraordinaire de véhiculé par ces personnages, que ce soit la relation du père et du fils, la relation justement avec les animaux transformés qui étaient auparavant des humains et qui, enfin bref, ça c'est quelque chose que vous pourrez découvrir dans le film. Mais il y a une beauté visuelle aussi que nous apporte son metteur en scène. Il en est seulement son deuxième long métrage. Son premier c'était Les Combattants en 2014, pour lequel il a eu le César du meilleur premier film justement. Et on découvre une espèce de richesse visuelle à l'écran, de course poursuite, d'action, mais en même temps de moments plus posés justement sur tous les échanges entre Romain Duris et son fils qui traversent un peu cette tempête au final que sont les événements du règne animal. Et on retrouve plein de références à plein de genres de cinéma. Moi je pense à cette scène dans les champs de maïs où plutôt vers la fin, donc on ne dévoilera pas, mais qui révèle presque quelque chose de Star Warsien, je trouve, dans la mise en scène. Et c'est un film prenant. Il y a un truc avec le rythme du film qui est vraiment saisissant, je trouve.
Et je trouve que le rythme, en fait, il passe aussi par l'aspect physique des animaux, mais aussi par... Tu parlais de Romain Duris et son fils et de Paul Kircher. Je trouve qu'il y a quelque chose de rythmé, d'animal. Moi, vraiment, ce qui m'a marqué dans son interprétation, c'est son mouvement, en fait, tout le temps. Il est tout le temps en mouvement. Il y a toujours un truc de regard, de rythme.
Un truc bestial, ouais,
bestial,
chez lui.
Bestial et en même temps hyper humain, hyper profond. Et je pense que c'est là-dessus où il arrive à nous attraper. Et en fait, quand tu parles du rythme, moi, je pense forcément à lui, en fait. Qu'est-ce que le rythme va imposer aussi à sa mutation, ou du moins l'inverse, qu'est-ce que sa mutation va imposer en termes de rythme au long métrage. Et ouais, en fait, à chaque fois que je pense à lui, je pense vraiment à sa petite tête qui est à la fois comprend ce qui lui arrive et qui veut pas que ça lui arrive aussi.
Il y a tout le truc de cet ado perdu aussi qui se retrouve dans un nouveau environnement.
C'est un teen movie, c'est ça. Le film
s'ouvre sur, grosso modo, un déménagement parce que voilà, les personnages interprétés par Paul Kircher et Romain Duris, donc la mère du personnage de Paul Kircher et donc la femme du personnage de Romain Duris, elle est atteinte de ces fameuses mutations et se voit envoyée dans le sud de la France, et donc sa famille va la suivre, et donc à partir de là, il y a un peu ce syndrome du poisson hors de l'eau, quoi. C'est-à-dire que le personnage de Paul Kircher, qui est un ado, va devoir se refamiliariser avec un nouvel environnement dans un nouveau lycée, bref, se nous faire de nouveaux amis, et donc au milieu de tout ça, il se passe tous les événements qu'il y a donc dans le règne animal. Et ouais, il est super dans ce rôle d'ado perdu, avec un père qui en même temps qui est toujours optimiste et qui essaye toujours de recoller les morceaux entre tout le monde et d'avoir une vision un peu sur l'avenir, et c'est très tendre, en fait.
Et qui est extrêmement bien joué par Romain Duris, ouais, également, ouais. Parce qu'on peut parler, on parle beaucoup du fils qui a une place importante dans le film, mais je trouve que Romain Duris est d'une justesse, que ça soit dans l'émotion, même avec tout le langage physique que le film doit avoir par rapport à son sujet, et vraiment il est très très bon dedans. Et une autre chose que le film, je trouve, arrive à faire et à laquelle je ne m'attendais pas forcément, c'est l'aspect presque de body horror, qui entoure certaines scènes. Visuellement, le film est effectivement très réussi et magnifique, mais même dans ce qu'il montre des transformations et ce qu'il montre de cette nouvelle mutation de humains qui deviennent animaux.
Il y a du gore.
Alors, c'est pas choquant, mais je trouve que c'est assez c'est visuel et c'est
graphique,
authentique.
Quand même.
Quelque chose de vraiment tangible, surtout.
C'est beau, quand tu parles de body horror, mais t'as raison. Mais je trouve qu'il y a une poésie de cette transformation. Et puis, on l'a pas dit, mais pour moi, c'est dans la lignée des grands Shyamalan. Tu parlais de la scène dans les blés. On ne peut pas penser à Signe. C'est dans la lignée des grands Spielberg, des grands Cronenberg. Enfin, c'est ce niveau-là. Et quand on parle d'un cinéaste qui doit avoir 35 ans,
qu'on est à son deuxième
long métrage et qui réussit réellement à s'aligner sur ce genre de réussite visuelle, c'est un peu vertigineux, moi, je trouve.
Puis mention spéciale accessoirement pour Adèle Exarchopoulos, qui apporte, parce qu'on l'a pas trop dit, mais c'est un film très drôle. Parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça, surtout suite à ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure. Mais c'est un film qui est très drôle. Elle apporte des vannes. Encore une fois, il y a un sens du rythme où elle apporte des trucs avec d'autres personnages, mais qui est très, très drôle, je trouve. Mais bon, bref, c'est une des grandes qualités de ce film. Lisa.
Je veux revenir sur plein de choses que vous disiez.
Oh, mais je t'en prie.
Non, mais voilà, parce qu'il y a plusieurs points hyper intéressants. Mais déjà, pour revenir à Romain Duris, vraiment excellent acteur. Rien à dire sur cette prestation qui est quand même assez incroyable. Et je trouve sa trajectoire, en fait, dans le film, elle est hyper intéressante par rapport à d'autres personnages, en fait. À la base, c'est cette relation père-fils où c'est le père qui va enseigner à son enfant, finalement, qu'est-ce que la vie, et lui donner un peu des longs discours et ce genre de choses. Et au final, plus le film avance, justement, et plus il y a un peu ce rapport qui s'inverse. Et ça, c'est très beau à voir, et je veux pas non plus divulgâcher ce qui se passe, parce que effectivement, la bande-annonce ne te vend pas ce que tu vois, et c'est là où c'est très intéressant. Pour revenir sur le body horror et tout l'aspect en fait visuel des créatures, faut savoir que Thomas Calier, il a travaillé aussi avec des dessinateurs de BD, il a travaillé avec ses chefs op, etc., mais avec des gens chargés du character design. Il est allé puiser dans de la 3D et en même temps du dessin, et en même temps dans de l'horrifique et du poétique, et je trouve que cette manière de fonctionner, même visuelle, bah du coup, c'est vraiment en lien avec toute la densité et la richesse que représente le film dans ses thématiques. En fait, tu retrouves cette richesse aussi dans le visuel, finalement, et dans l'imagination qu'on a de ces créatures. Et je trouve que c'est hyper important, et ça apporte vraiment une solidité à tout l'univers qu'il crée dans le règne animal.
Et tu parles des personnages et de leur design. C'est un film qui se donne les moyens de raconter son histoire. C'est un film qui montre tout ce qu'il a envie de montrer et qui cache pas grand-chose, au final.
Il n'y a pas du tout de sentiment de comment on dit misère cachée, enfin de cacher la misère parce qu'on n'aurait pas les moyens de réaliser cette ambition.
Là, c'est un, on l'a dit visuellement, c'est fou toutes ces scènes de course poursuite parce que ça se passe beaucoup dans la forêt aussi. Donc il y a tout un truc sur la lumière qui est sublime de bout en bout. Mais il y a forcément aussi des créatures hein, puisque c'est le et des animaux créés spécialement pour l'occasion. Et on sent qu'il y a un vrai amour de ce type de cinéma-là dans la façon dont c'est réalisé parce que forcément il y a beaucoup d'animatroniques, il y a beaucoup de marionnettes, donc de choses physiques avec lesquelles les acteurs ont pu interagir. Et il y a forcément beaucoup d'effets spéciaux réalisés par ordinateur pour des séquences un peu plus compliquées à réaliser en vrai. Et ce mélange des deux, honnêtement, pour avoir quand même vu beaucoup de films de ce genre-là et d'avoir un peu l'habitude de ça, c'est très difficile de déterminer exactement qu'est-ce qui est fait en vrai et qu'est-ce qui est fait en image de synthèse. Et je trouve le résultat extraordinairement fluide là-dedans. Et ça arrive en fait à créer un espèce d'univers ultra cohérent. Quoi.
Et crédible. On y croit du début à la fin, toutes les créatures, tout ce qu'on voit, on y croit.
Donc c'est vraiment un film qui se donne les moyens, c'est un grand film. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Le Règne Animal, Gaël Lisa ?
Pierre Bachelet peut-être.
Pierre Bachelet, non mais vas-y, je t'en prie.
Non, la scène je vais pas gâcher la découverte, mais il y a une scène avec une musique de Pierre Bachelet qui est absolument extraordinaire, absolument extraordinaire. Et normalement, ça fait pleurer.
Ça fait son petit effet.
Ça fait son petit...
Est-ce que ça a été chercher un petit peu la larme chez
toi ?
Ah bah
moi, entre Acide et ça, là, je trouve que le cinéma français a ça, quand même...
Il y a de belles propositions.
Et puis surtout sur des jeunes réalisateurs.
Exactement.
Des réalisateurs qui en sont... Bah, Acide, c'était le cas aussi pour Juste Philippot, c'était simplement son deuxième film. Même chose pour ici avec Thomas Caillet sur...
Ce que je trouve intéressant dans les deux cas, c'est que ce sont des cinéastes qui ne viennent pas du genre. C'est des cinéastes qui... alors c'est très vite dit et ils auraient sans doute beaucoup de choses à redire, mais c'est des cinéastes fémis en fait. Donc un cinéma plus traditionnel, plus de pièces cuisine, machin. Mais
la fémis, école de cinéma.
La fémis étant l'école de cinéma de référence en France et d'ailleurs l'international. Mais voilà. Et très axé sur le travail du cinéma. Scénario et voilà de les héritiers d'un cinéma réaliste à la Piala, Truffaut, enfin ce genre-là. C'est évidemment dit très vite, donc avec beaucoup de caricatures, mais quand même. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils viennent de ces écoles-là, de cette galaxie-là, et ils vont vers le genre et vers des choses beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus grandiloquentes, on va dire. Et le mélange crée quelque chose d'unique avec encore une fois des propositions de cinéma, moi qui me paraissent vraiment hyper intéressantes, quoi. Osées et réussies surtout. Donc chapeau. Franchement, chapeau.
Vraiment hâte de voir ce que nous réserve justement l'avenir pour ces deux réalisateurs, pour voir un peu les nouvelles propositions, que ce soit Acide et Le Règne Animal. On est sur des propositions de cinéma quand même assez vertigineuses et tout à fait rafraîchissantes dans le cinéma français. Le Règne Animal, c'est donc notre label, L'Autre Regard. Passons désormais à un film qui n'a absolument aucun rapport, si ce n'est que c'est un film de cinéma. Il sort
la même semaine.
Et il sort la même semaine, il y a des images, il y a des acteurs, enfin, au final, c'est un film, quoi. c'est donc Bernadette, la nouvelle comédie signée Léa Doménac avec Catherine Deneuve, Denis Podalydès et Michel Villermoz.
Les gens vous trouvent ringarde.
Bonjour, madame Chirac.
Bonjour, Molinier.
Froide. 19,8.
Bonjour, madame.
Bonjour, madame Chirac.
Austère. Acariâtre à égalité avec Revêche.
Oui, moi, ça va, j'ai compris.
Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage.
Bernadette, c'est donc un biopic porté par Catherine Deneuve dans le rôle de Bernadette Chirac.
La
tortue. Et oui, parce que ça devait être d'ailleurs le premier titre. C'était le premier titre du film. Et pourquoi la tortue d'ailleurs ?
Parce que c'est le surnom qu'on lui a donné. Le surnom de Bernadette.
Que Jacques Chirac donnait
à sa femme. Exactement.
Voilà, super. mais qu'est-ce qu'il y a de jouissif presque à découvrir une actrice comme Catherine Deneuve dans un film comme Bernadette ?
Ouais, c'est de l'ordre de la transgression en fait. Je trouve que c'est un peu comme Potiche. D'ailleurs, Potiche était le personnage de Potiche avait été calé à la base, osons le dire assez régulièrement, était inspiré par Bernadette Chirac. C'est ça, c'est en fait la voir habillée avec ses petits costards, ses petits ensembles, jupes, tailleurs, bien dessiné, bien designé, et puis en fait donner vie à un personnage qui a toujours été, qui a souvent été en retrait, qui était dans l'ombre de son mari, et lui donner la possibilité d'exister au premier plan. Il y a un côté effectivement, c'est ça, ouais, transgressif, amusant, décalé, on va dire. Surtout elle, l'impératrice du cinéma français, qui se retrouve à jouer celle qui ne vivait que dans les pas de Jacques Chirac. Je trouve qu'il y a une proposition de scénaristique, et puis en plus après pour elle à jouer ça, qui est assez jouissive.
Ah, puis ce qui est marrant aussi, c'est que dans l'inconscient collectif, le personnage de Valérie Chirac, on le connaît presque plus des guignols que dans ce qu'on pouvait connaître de la vraie personne.
Le sac à main,
la totale, quoi. Ça, mais là, on découvre en effet un personnage, comme le disait d'ailleurs sa réalisatrice en interview, un personnage, même, enfin, je parle vraiment de Bernadette Chirac, la vraie personne, qui était capable de balancer des répliques extraordinairement cinglantes qui est dotée d'un humour vraiment très pointu. Et c'est aussi un peu ce qu'on retrouve dans Bernadette avec ce...
Il y a de la vacherie, ouais.
Ouais, parce que donc le film, pour donner un peu de contexte, donc c'est un espèce de biopic, enfin c'est un biopic sur une période assez précise, hein, celle grosso modo des années l'Élysée, grosso modo, avec l'arrivée de Jacques Chirac au pouvoir, qui est interprété par un merveilleux Michel Villarmoz, comme son habitude. Denis Podalydès joue son directeur de cabinet. Son DIRCAB. C'est un film réalisé par la créatrice de la série Jeunet Gaulery, qui était passée sur OCS, et aussi coécrit par la créatrice de la série OVNI, avec d'ailleurs Michel Villarmoz, sur Canal. C'est un drôle d'exercice. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce Bernadette pour vous deux, qui n'avez pas encore pris la parole sur le sujet, Lisa Robin?
Oui, mais déjà, il y a aussi ce côté d'entrer un peu dans les coulisses du pouvoir.
Les arcanes.
C'est toujours un sujet qui est intéressant, que ce soit en France avec l'Élysée, ou on pense à plein de séries et films aux États-Unis avec la Maison Blanche. Mais c'est toujours quelque chose d'un petit peu.
Que Bernadette t'a fait penser à White House Down de Roland Emmerich.
À VIP, bien sûr.
À VIP, bien sûr.
Le fait d'entrer dans les coulisses de l'Élysée, du point de vue, en plus, non pas justement du président ou des ministres ou des enjeux politiques importants, mais de la femme du président et ses enjeux propres à elle, qui sont tout aussi importants, mais qui sont plus humains, du coup. Ça, c'est déjà une promesse du film qui est intéressante, et portée en plus par cet humour à la fois un peu cynique, second degré, parodique parfois, qui donne une touche, je trouve, au film, très différent des autres biopics ou des biopics classiques. On n'est ni dans la comédie attendu, ni dans le biopic prévisible. C'est un mélange des deux qui est surprenant et qui permet d'avoir une originalité totale.
Il y a un truc très fort, je trouve, aussi qui joue beaucoup, comme dans tous les films, mais aussi, surtout dans les comédies, je trouve, c'est la question du montage, où il y a vraiment beaucoup de vannes qui sont vraiment installées. Par exemple, non, il ne va pas se passer ça, cut instantané, d'un seul coup, il se passe l'exact opposé. Et moi, ça marche extraordinairement bien sur moi. Tu voulais dire quoi, Lisa?
Non, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je rajouterais aussi que c'est quand même. Enfin, moi, ce qui m'a séduite aussi, c'est que c'est une comédie sur un peu les outsiders aussi, oui. À la base. Voilà. La tortue.
Comme le lièvre et la tortue, finalement. Une petite référence littéraire pour toi, Gaëlle.
Ça, c'est pour Gaëlle.
La fontaine.
Ce que je veux dire, c'est que je trouve que ça marche très bien. Elle est, comme disait Gaëlle, dans la transgression, dans ce côté un peu à contre-emploi de ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que son duo avec Denis Podalydès fonctionne à merveille. Mm-hmm. Tu parlais de rythme et d'effet comique. Je pense que les deux se renvoient très bien la balle. Et en même temps, il y a quand même cette petite touche féministe de. C'est quand même une femme qui est quand même cocu publiquement aussi, qui va un peu prendre sa revanche, que ce soit justement dans les conseils politiques dont elle aimerait bien faire partie, et au final en plus elle a raison, donc elle est vraiment éclairée là-dessus. Donc plein de choses à en dire, et aussi malgré cet aspect comique de Neuf Portes, je trouve qu'elle est hyper émouvante. En même temps, elle a des petits jeux de regard parfois qui sont hyper touchants, et je pense que c'est aussi en ça où ça m'a étonnée, et où en fait ça participe aussi à peut-être pas inverser, mais un peu à casser l'image de cette icône Bernadette Chirac qu'on a aussi, de cette froideur un peu qu'on a habituellement.
Ce qui est génial aussi, c'est de retrouver accessoirement Catherine Deneuve dans un premier rôle au cinéma, seule, quoi, où elle porte vraiment ce projet. Kaël, tu voulais ajouter quelque chose?
Je trouve que ce que disait Lisa était intéressant parce que sur l'aspect féministe, tu donnes au fond une existence à quelqu'un qui médiatiquement n'existait pas ou n'était réduite, comme tu le disais Alexis tout à l'heure, qu'à sa marionnette des guignols.
Oui. Ou aux pièces jaunes.
La question qui se pose après est de savoir si en donnant une existence et donc en la rendant attachante, etc., tu crées pas aussi un phénomène politique de réécriture de l'histoire, c'est-à-dire que malgré tout, jusqu'à quel
pouvait,
point
comme
on a...
ça pouvait être le cas de Jacques Chirac dans les Guignols,
exactement,
par exemple.
Exactement. Ouais. Jusqu'à quel point tu as envie de t'apitoyer sur le sort de Bernadette Chirac.
Oui,
ça, tu vois. Et
oui,
pourquoi d'ailleurs, pourquoi ça, c'est une question que je me suis posée pendant le film. Je l'ai trouvé un tout petit peu vache, la réalisatrice, avec le personnage de Claude Chirac.
Ah ben carrément.
Il y a un parti pris.
Par Sarah Giraudot, d'ailleurs.
Ouais, pardon. Ouais. Et je me dis, tu vois, là, c'est des partis pris que t'as envie de, qui sont intéressants. C'est-à-dire que t'as envie de questionner, de réfléchir avec, parce que c'est évidemment, c'est de l'histoire immédiate. Donc on l'a connu nous, Bernadette Chirac.
Ah bon. Et, personnellement.
Bah, si je vous racontais tout ce que j'ai fait pour les pièces jaunes.
Oh, leur série, bien sûr. On aura la petite maison en carton au milieu de la table.
Mais je trouve que c'est quand même des choses qui sont pas anodines et qui méritent qui doivent être adressées et dont on doit réfléchir.
Mais c'est vrai là-dessus. Qu'il y a souvent ce genre de questions dès qu'on s'attaque à des personnalités publiques. Il y avait le même sujet avec Tapie récemment sur sa série. À quel degré on a envie de...
Ou Oppenheimer.
Là, tu es passé directement de Bernard Tapie au père de la bombe atomique.
C'est un podcast sérieux, quoi.
Ah oui, vraiment.
Bernadette à Oppenheimer.
Ah, c'est ça, on est sur des enjeux.
Et je voulais rajouter, c'est Robin qui disait ça tout à l'heure sur l'aspect coulisses du pouvoir.
C'est vrai qu'il l'a dit.
Souvenez-vous, on s'écoute l'extrait.
Magneto,
c'est ça. Moi, ça m'a un peu rappelé Quai d'Orsay, en fait. Ouais. Un peu la comédie à l'Élysée, bon là en l'occurrence Quai d'Orsay. Ouais, l'aspect on parodie, on se moque un peu légèrement aussi, faut se l'avouer, de ces fonctionnaires d'État aussi. Et moi, ouais, je sais que Quai d'Orsay, j'en ai un très bon souvenir.
Très BD en plus.
Et très BD aussi. Et j'ai l'impression de mettre ces deux films un peu en écho, quoi, finalement.
C'est le moment de rappeler qu'Antonin Baudry est en tournage
sur un diptyque sur De Gaulle et qu'on a extraordinairement hâte
de voir ça,
de découvrir ça, d'en savoir plus.
Je te le confirme.
Très, très impatient de voir ça. Ça sortira dans un certain temps, mais écoutez, on espère que le podcast sera encore là pour en parler longuement.
Antonin Baudry, juste, qui est le scénariste de Quai d'Orsay et qui avait écrit la BD, justement, de Quai d'Orsay.
Et qui avait réalisé Le Chant du Loup. On ne le rappelle pas assez. Extraordinaire film aussi. Bref, Bernadette, c'est donc le label coup de cœur des cinémas pâtés cette semaine. Deux jolis films à découvrir, deux jolis films. Je ne suis pas sûr que c'est le meilleur adjectif pour les qualifier, mais vous avez compris l'idée. Deux films à voir, en tout cas, sur grand écran cette semaine au cinéma. Et d'ailleurs, on va revenir sur les bonnes raisons d'aller découvrir ces deux films-là bien assis comme ça, confortablement dans ton siège. Un cinéma pâté, Gaël? N'importe quel.
Le Parnasse, le
Bravo,
Montparnasse. Oh,
très bon choix. Robin?
Pas tes plantes campagnes.
Évidemment. Lisa.
Moi, j'aime bien celui d'opéra.
Eh bien, voilà. Eh bien, prépare-toi pour le prochain Pâté Palace.
C'est vraiment Paris contre la province.
c'est ça.
Pâté la Valette.
Eh
bien,
voilà.
Si tu veux.
Eh bien, on pourra.
Ah, bah, celui de Rennes, alors. Excusez-moi, parce que non, bah, chacun son.
Quid de celui de Disney Village, au final. Bref, écoutez, on pourra faire un jeu, celui qui arrive à le citer le plus, bien sûr, de cinéma pâté, ça sera dans un épisode à venir, mais pas dans celui-ci, je vous en supplie. Donc, pour quelles raisons faut-il aller voir Le Règne Animal cette semaine sur grand écran? Je commence par Robin.
La façon dont le film arrive à tenir du début jusqu'à la fin avec son postulat d'être humain se transformant en animaux.
Moi, je pense pour l'aspect métaphorique de la mutation et qu'est-ce que ça questionne tant de l'ordre de l'intime entre le père et son fils que de notre société actuelle.
Okay. La meilleure scène d'ouverture du cinéma français de l'année et surtout l'ouverture, l'entrée dans une révolution, j'imagine.
Il n'a pas peur non. des mots.
C'est une révolution.
Moi, je dirais pour le cinéma de Thomas Caillet et la promesse que nous offre un long métrage comme celui-ci pour justement de prochains projets. On a extrêmement hâte de voir ce que ce metteur en scène nous réserve pour la suite. Bernadette, pourquoi faut-il aller voir ce film cette semaine sur grand écran? Je commence par Gaël.
Michel Villermoz, je suis d'accord, je trouve qu'il fait un Chirac vraiment génial. Quoi.
Il est extraordinaire. Michel Villermoz, de la Comédie Française.
De la Comédie.
Bien entendu. Comme Denis Podalies.
De la Comédie Française.
Et Laurence Stocker.
De la Comédie Française.
Lisa Murator, de la Comédie Française. Pourquoi faut-il aller voir Bernadette au cinéma cette semaine?
Pour le regard hyper touchant que Deneuve a dans le film.
Et Robin?
Pour Denis Podalides, de la Comédie Française.
Formidable. J'ajouterais, ouais, pour son humour et comme tu le disais tout à l'heure aussi, pour le fait justement de rentrer dans cet Élysée, mais du point de vue de la Première Dame, ce qui est assez rare, parce qu'on l'a vu, bien sûr, on a déjà vu des films sur le Président de la République, comme La Conquête, finalement, avec un acteur qu'on a vu dans Bernadette, et bien sûr dans Les Tuches 3.
Sans transition,
bien entendu. Bref, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Bien sûr, donc d'aller voir Bernadette et le Règne Animal au cinéma cette semaine. Préservez bien sûr vos places pour aller voir Taylor Swift, The Eras Tour, car au-delà de croiser Taylor Swift sur grand écran, vous croiserez peut-être Robin dans la salle avec peut-être qu'il aura des petits bracelets comme ça à vous offrir. Oula, ça c'est une ref de Swiftie que je viens de faire. Je suis déjà contaminé. Bref, aussi au programme cette semaine, la semaine prochaine, pardon, mais on vous en parle dès maintenant, c'est l'avant-première de L'Abbé Pierre, une vie de combat le dimanche 15 octobre, une séance spéciale du film dans les cinémas Pathé, suivie d'une rencontre avec l'équipe retransmise sur grand écran. Et en direct, la semaine prochaine, un épisode spécial dédié à Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese qui sortira la semaine suivante. C'est un réalisateur, Martin Scorsese.
Très bien.
Bien sûr. Attention à ne pas faire l'erreur.
J'allais te dire, comment ça s'écrit?
Alors, ça s'écrit Scorsese, mais hormis le C qui suit bien sûr le premier S, ce ne sont que des S. Je veux que ce soit bien compris par tout le monde. Voilà, avec un large focus sur la carrière de son réalisateur. La semaine prochaine, il y a aussi bien sûr des films qu'on ne mentionnera peut-être pas dans le prochain épisode, mais il y aura bien sûr Expendables 4, il y aura la Pat Patrouille, la Super Patrouille, et encore l'Exorciste Dévotion. Bref, mais en tout cas, la semaine prochaine, on reviendra largement sur le film de Martin Scorsese. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table pour parler de ces deux très beaux films qui sortent cette semaine sur grand écran. Merci Gaël.
Merci Alexis.
Merci Lisa.
Merci Alexis.
Et merci Robin.
Merci Alexis.
Merci à vous de votre écoute. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.